Édouard Rode. La Grande Jeanne. En feuilletant mon plus vieil album de photographie, j'y trouve un portrait de paysanne. C'est celui de la Grande Jeanne. Elle a les traits arrêtés, énergiques, un nez droit, des lèvres minces qui dessinent une grande bouche où il n'y a plus beaucoup de dents. Son visage est creusé de rides qui courent et s'entrecroisent en tous sens. Elle est endimanchée, avec un beau bonnet blanc. Le photographe lui ayant dit qu'il fallait sourire, elle sourit, d'un sourire étonné, voulu, mais convaincu, qui fait aussi clignoter ses petits yeux. Ses mains sont posées sur ses genoux. De vieilles mains déformées par le travail, des mains durcies, des mains aux doigts épais, lui racontent bien des fatigues. Et voici qu'il me revient l'histoire de cette pauvre vieille que j'ai vue vivre et que j'ai vue mourir. Chapitre 1. Là-bas, au pied du bois, tout près d'un petit village, elle nourrissait toute une maisonnée. Son mari, le père André, essayait bien de gagner quelques sous en fabriquant des sabots. Mais, outre qu'il se faisait vieux et n'y voyait plus guère, ses clients, qui enlèvent leurs chaussures de peur de les user dès que les chemins deviennent mauvais, le laissaient chômer souvent. Et puis, sa maison était isolée, il fallait se déranger pour aller lui commander de la marchandise. Et justement, un concurrent venait de s'établir à l'endroit le plus fréquenté du village, vis-à-vis du cabaret, auquel une branche de sapin sert d'enseigne. Les André n'étaient pas ce qu'on appelle de pauvres gens. Leur maison, un peu hypothéquée, c'est vrai, leur appartenait. Et derrière la maison, le champ qui monte en pente douce jusqu'à la forêt, et devant, le jardin, fleuri de pois chiches, avec quelques tournesols dressés au milieu des carrés de salade, et le grand poirier, dont la récolte est toujours maigre, mais qui, depuis des ans et des ans, étend son ombre sur le chemin. À coup sûr, le jardin, le champ, la maison, c'était plus qu'il n'en fallait pour les deux vieux. Ils auraient pu vivre là bien tranquilles, à côté de la scie au gros Frédéric, un balois qui, depuis le temps qu'il vivait en pays welsh, n'avait pas appris plus de 20 mots de français, juste de quoi traiter ses affaires avec les marchands de bois. Laisser leurs 3 chèvres brouter en paix des herbes drues sur les flancs du Mollard, ce monticule en dos d'âne qu'on voit de loin surplomber leur habitation, et pour mettre un peu de beurre dans la marmite, il leur aurait suffi de louer pendant la belle saison leur meilleure chambre à quelques Genevois, qui, pour respirer l'air des bois sans trop s'éloigner de leur ville et à bon marché, s'accommodent de la vie paysanne, mangent le soir la soupe dans des pots de terre assis sous le poirier, et boivent le matin les œufs chauds qu'on va prendre sous la poule pendant qu'elle chante encore son cocola. Mais les André avaient avec eux leur fils Jacques, qui était maçon. Jacques, un grand gaillard découplé en Hercule, avait un teint basané d'homme du midi, une touffue barbe noire, des yeux pétillants d'intelligence. Jacques n'était point un fainéant, loin de là. Malheureusement, il avait choisi un bien mauvais métier. On ne bâtit guère dans ces villages du Jura vaudois qui sont encore trop dans la plaine pour attirer les étrangers, où le sol est avare, où seul le commerce du bois permet de gagner de l'argent, quand on en a déjà assez pour le risquer. Tout petit, Jacques disait « Je veux faire des maisons, moi ». Et il avait appris à en faire, comme il le voulait. Seulement, il n'en faisait pas. Pendant des mois, Jacques n'avait pas eu d'ouvrage. Tout triste, roulant dans sa tête un tas d'idées qui inquiétaient sa mère, il restait assis pendant des heures sur un tas de billons au gros Frédéric. Quelquefois, pour se distraire, il donnait un coup de main au balois, qui, toujours taciturne, sa pipe de Chemnitz aux lèvres, sa vieille calotte de soie sur l'oreille, vaquait parmi des tas d'écorces ou de copeaux. Et, ce qui était bien mauvais signe, quand il lisait avec un air féroce le courrier de la côte, il commençait à dire qu'il fallait couper la tête à tous les riches. À la fin, pourtant, Jacques trouva une occupation, à 2 lieues dans la montagne, dans les carrières de pierre de Saint-Sergue. Une besogne d'homme de peine, à laquelle le premier venu peut suffire, sans avoir appris à faire des maisons, qui ne rapporte presque rien, et qu'il fut pourtant bien aise de trouver. Encore, si Jacques avait été seul, il aurait alors pu s'expatrier, s'en aller dans les villes qui s'agrandissent, où un bon maçon gagne sûrement son pain, ou plus loin, de l'autre côté des mers, dans ces pays nouveaux où tout le monde fait fortune et d'où l'on ne revient jamais. Mais, ayant toujours voulu faire à sa tête, il s'était marié à 19 ans, avec une Française en service au village, une jolie fille nommée Léonie Ledoux. À présent, Léonie n'était plus jolie. De plus, atteinte d'une maladie de femme et réduite à de longues immobilités, elle était inutile aussi. Ils avaient 3 enfants. Ami, l'aîné, un gaillard de 12 ans, solide comme un roc, qui avait un appétit d'ogre et ne sortait jamais sans déchirer sa blouse ou son pantalon. La petite Jeanne, la favorite du grand-père, bien tranquille celle-là, très douce, gentillette comme pas une, avec ses cheveux couleur de chanvre et sa petite figure maigriotte tachetée d'éphélide. Et Albert, le cadet, le gros chagrin de ses parents, leur boulet, leur torture, un innocent de chétive mine, le visage massacré par une envie, qui, à 8 ans, ne parlait pas encore, suçait son pouce et se roulait dans la bouffe, comme une pauvre bête sans raison qu'il était. Un bedan, quoi, comme on dit au village. Avec une telle famille, on est cloué sur place, moins libre qu'une chèvre à la tâche. Pas moyen de partir pour les pays lointains, de les exposer au hasard des commencements, de leur enlever peut-être la mer par le voyage, ou par les privations, ou par le climat. Il fallait donc bien que la grande Jeanne s'ingéniât à inventer toutes sortes d'industries pour donner du pain à tant de bouches. Et elle s'ingéniait, allez, la grande Jeanne. Sa vieille tête inventait tous les jours un nouveau moyen de gagner un peu d'argent. Et ses vieilles jambes ne se reposaient jamais. 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche, elle se faisait messagère. Sa lourde hotte sur son dos un peu voûté, elle s'en allait à Nyon, la ville voisine, pour les commissions du village. En été, pour ne pas perdre sa matinée, elle partait vers midi par la plus forte chaleur. Elle suivait jusqu'au bout la longue route en plein soleil, sans même se rafraîchir à l'auberge où s'arrêtent les rouliers, s'asseyant seulement de place en place sur une borne à l'ombre maigre d'un pommier pour essuyer la sueur qui ruisselait de son visage. À mi-chemin, la diligence des rousses passait devant elle, enveloppée de poussière dans le tapage de ses grelots. Bientôt après, le lac apparaissait, d'un bleu profond sous le ciel rutilant de lumière, les côtes de la Savoie en serrant sa nappe unie entre des perspectives de clochers, de prés verts, de champs d'orge blonds, avec au-dessus les sommets des Alpes taillés à grands coups, dans des âges fabuleux, par des mains de géants, et leurs masses neigeuses formant l'horizon. Puis enfin, au bout d'un contour où la route commence à descendre plus fort, 3 tourelles du château de Nyon venaient remplir le premier plan, en sorte qu'on eût dit que tout ce paysage, dressé derrière comme un vaste décor, n'avait été dessiné par le bon Dieu que pour servir de cadre à cette bonbonnière faite par des hommes qui depuis longtemps dormaient 6 pieds sous terre. À Nyon, La grande Jeanne courait par les rues enchevêtrées qui montent et descendent avec des pavés pointus où l'on se tord les pieds. On la connaissait dans toutes les boutiques. Quand elle entrait pour ses emplettes, on la faisait asseoir. « Tiens, c'est vous, mère André. Comment ça va? Et qu'est-ce qu'on dit là-haut ? » On lui offrait un verre de petit blanc. Et volontiers, elle s'attardait un peu à raconter les cancans du village. « La fille au pasteur va se marier. Le syndic se met à boire dans sa cave. On s'occupe de l'abbaye qui aura lieu en septembre prochain. » Abbaye, note, fête foraine, sorte de kermesse. Fin de note. À chaque halte, la hotte se remplissait. Des provisions de bouche pour M. Parent, le riche propriétaire qui aime les conserves et les primeurs, une rame de papier pour le régent, des livres pour M. Loranger, le grand romancier vaudois, le peintre des mœurs campagnardes. Bref, c'est 1000 choses bien lourdes qu'on ne trouve qu'à la ville. De sorte que, quand venait l'heure de partir, la hotte tirait dur. Aussi, au retour, la sueur coulait plus abondante encore sur le visage de la grande Jeanne, qui s'essuyait à tout moment avec son mouchoir à carreaux en redressant sa taille de gendarme et se mettait à refaire le chemin parcouru, la bouche entr'ouverte pour respirer mieux. La route monte tout le temps. Une pente douce, mais continue, qui, à la longue, fait haleter et casse les jambes. La fatigue? Bah, la chaleur est tombée. La Vaudère souffle un bon air frais, chargé des parfums du foin qui sèche dans les champs. D'ailleurs, il se fait tard. Déjà l'ombre monte de la plaine et rampe contre les lianes des sommets en dodane du Jura, dont la ligne monotone et noire s'étend là-bas, au-dessus de Givrin. Il faut se dépêcher. Autrement, Léonie serait inquiète. Et la petite Jeanne, qui n'a pas plus de santé qu'un poulet malade, s'endormirait sur le banc, devant la maison, au risque de prendre un mauvais coup de froid, comme elle en a déjà eu. En hiver, la course était plus rude encore. Alors il faut brasser la neige qui couvre tout, où l'on enfonce jusqu'à mi-jambe. À certains tournants de la route, un vent glacé vous barre le passage, vous cingle la figure d'un millier de coups de fouet, vous fait courir de longs frissons dans les moelles. Et par la nuit tombée, les arbres décharnés claquent comme des os de mort, et l'on entend courir dans l'obscurité des gémissements sourds qui vous donnent des idées noires. Louer quelques chambres pendant les 2 mois de l'été, faire la messagère, retourner le jardin, vendre les cabris quand la chèvre a mis bas, ce n'est pas encore assez pour nourrir cette personne, même avec les sabots du père André et les journées intermittentes de Jacques. Surtout quand il faut à tout moment remplacer les blouses déchirées de ce galopin d'amis, acheter des remèdes pour Léonie et payer les visites du médecin, le docteur Durier, qui vient de Trélex dans son cabriolet tiré par sa jument jaune. La grande Jeanne a donc d'autres cordes à son arc. On est tout près de la forêt. Or, la forêt est pleine de ressources, et la grande Jeanne, qui la connaît à fond, sait l'exploiter. Elle ne se borne pas à lui demander la provision de bois de l'hiver. De bonnes branches mortes que le vent arrache aux vieux arbres et qui flambent et pétillent joyeusement dans la cheminée pendant que tout dort sous la neige. Mais dans la saison, elle va cueillir patiemment les fraises parfumées cachées sous les mousses, les baies noires des myrtilles, les framboises savoureuses qui, malgré l'ombre, mûrissent lentement dans la liberté des bois. La petite Jeanne l'accompagne, gazouillant autour d'elle comme les oiseaux dans les fourrés, s'avançant trop près des ravins et se faisant rappeler, pleine de bonne volonté, mais trop facilement distraite, hélas, par un pique-bois qui creuse un tronc d'arbre, par une libellule rasant la mousse, par un papillon dont les ailes étincellent tout à coup dans un rayon filtré à travers les feuilles, pour apporter à la cueillette l'attention qu'il faudrait. Deux ou trois fois, on voulut emmener Ami, mais, paresseux comme un loir et n'aimant que muser par les chemins, il grognait tout le temps, marchait sur les fraises ou les écrasait entre ses doigts, sans qu'on pût savoir au juste si c'était maladresse ou méchanceté. De sorte que la grand-mère ne peut compter ni sur l'un ni sur l'autre. D'ailleurs, comme ils lui font encore faire de la bile, parce qu'ils se querellent, et Camille, au risque de se faire pincer par le garde champêtre, casse des branches au hêtre pour rosser la petite Jeanne. Elle aime mieux être seule, à remuer les feuilles de ses vieilles mains sèches. Mais ce n'est pas tout. Quand il n'y a plus de fraises, en automne, il y a des mûres, cachées parmi les épines qui les défendent, mais qu'on vend assez cher pour faire du sirop. Puis, après les pluies, quand les chemins sont défoncés et l'herbe toute mouillée, il y a certains champignons dont les pharmaciens se servent pour fabriquer leurs drogues. Et il y a encore les pièges à renards, que la mère André lève elle-même, armée d'une hache pour tuer la bête. Et il y a les vipères, qu'elle poursuit à cause de la récompense qu'on donne pour chaque tête de serpent venimeux. Tout cela, c'est la forêt qui le donne. Une des plus lucratives industries de la Grande Jeanne, qui se pratique justement en hiver, quand il n'y a rien à tirer de la forêt, c'est de faire boucherie, c'est-à-dire de s'en aller en ville, tuer pour les bourgeois des cochons et les mettre en saucisses, en boudin, en atriaux, en cervelas, etc. La Grande Jeanne n'est point sentimentale. Elle écoute sans la moindre émotion le cri du pauvre animal qui saigne lentement sur le trébuchet, ce cri perçant, désespéré, qui se prolonge avec des intonations de cris d'enfant. Ensuite, les manches retroussées, elle passe un jour et demi à hacher la chair fraîche et à l'enfermer dans diverses espèces de boyaux, selon les règles d'un art très compliqué. Oui, il faut tous ces petits commerces pour que la maison marche. Chapitre 2. Les semaines et les mois passent, rien de meilleur. La vue du père André baisse un peu tous les jours. Pour travailler, il a dû se procurer des lunettes, de grosses lunettes rondes que sa femme a achetées au rabais, à Nyon. Elles se tiennent si drôlement sur son nez que les enfants ne peuvent pas le regarder sans rire. Alors le père André, qui ne manque jamais une bonne occasion de gronder, se met en colère et crie que, de son temps, les enfants ne riaient pas quand leurs parents mettaient des lunettes. Ami reste inutile. Impossible de lui donner un métier. Les apprentissages coûtent trop cher. Le père André lui enseigne à fabriquer des sabots, sans espérance, pour l'occuper. Ou bien il va le long des routes ramasser des brouettes de crottin, qu'on vend comme engrais aux propriétaires. Et la grande Jeanne le voit d'un œil morne devenir un homme robuste, bien pourtant, et qui ne gagnera pas sa vie. Ah, mon Dieu, que feront-ils tous quand elle ne sera plus là? Donc, Ami n'étant bon à rien de sérieux, on l'envoie de temps en temps à l'école. Il n'apprend pas grand-chose, quoiqu'il soit plus âgé que tous ses camarades. Le régent, auquel il n'apporte jamais ni œufs frais, ni saucissons, ni légumes, dit que c'est un âne et qu'il a de mauvais instincts. Ce doit être vrai, car il se lie avec les pires garnements qu'il rencontre, qui viennent le chercher jusque chez sa grand-mère, et rôdent, en attendant, autour de la scie. Un de leurs plaisirs favoris à ces gaillards, qui ont en eux l'esprit du mal, c'est de s'emparer d'Albert, le pauvre bedon. Ils l'emmènent à quelque distance de la maison, et s'amusent à lui enseigner toutes les mauvaises manières de leur répertoire, qu'il répète ensuite dans son inconscience. Et quand le malheureux, par lassitude ou par entêtement subit, refuse de leur obéir. Il le bouscule, le pousse dans les haies, lui tire les cheveux, le roule dans les orties, jouissant de ses cris inarticulés, de ses rages impuissantes, des grands coups de poing sans force qu'il donne autour de lui, jusqu'à ce qu'un passant charitable le tire de leurs mains. Ou bien, guidés par Ami lui-même, ils envahissent le pré, se roulent en criant sur le talus qui descend jusqu'au ruisseau, hachant l'herbe comme un tourbillon de grêle, plus malfaisant qu'une nuée de sauterelles. Il faut que le père André accourt avec sa fourche pour protéger sa récolte et ramène par l'oreille son petit-fils à la maison. Alors la grande Jeanne, indignée, pousse des cris terribles, les mains sur les hanches, sourde aux supplications douloureuses du regard de Léonie, qui a un faible pour son mauvais sujet de fils. Presque toujours, elle s'en tient aux paroles. Mais Jacques, en rentrant le soir, après sa dure journée et sa longue marche, devine tout de suite ce qui s'est passé, rien qu'à l'air de tout le monde, et corrige Ami d'importance. À la moindre taloche, le méchant gamin se met à hurler comme si on l'écorchait vif, et le tapage remplit la vieille maison, troublant le repos hâtif des gens en villégiature qui se plaignent le lendemain et disent qu'ils ne sont pas venus à la campagne pour entendre crier la nuit. Seule la petite Jeanne s'efforce de se rendre utile. Quoiqu'elle ait à peine 13 ans, elle soulage déjà sa grand-mère de bien des travaux fatigants. Par exemple, quand les chambres sont louées, c'est elle qui fait les lits, pendant que les étrangers respirent l'air frais du matin devant la maison, sous le grand poirier, en attendant leur café au lait. Et il faut voir avec quel courage elle remue les matelas trop lourds pour elle, en suant à grosses gouttes. Elle a une idée à laquelle elle revient sans cesse. « Dans 4 ans, dit-elle, quand j'aurai tout à fait grandi, je m'en irai en place, à Genève. » Chaque fois qu'elle dit cela, la grande Jeanne devient grave. Avoir bûché sa vie durant, comme elle a bûché, pour voir à la fin ses enfants s'en aller servir chez les autres, surtout quand on a commencé avec une maison à soi, un champ, l'espoir de devenir riche, c'est dur, c'est si dur qu'elle ne peut en prendre son parti. « Non, fait-elle de sa voix rude, tu n'iras pas en place. Il faut rester ensemble tant qu'on peut. » La petite Jeanne hoche la tête d'un air raisonnable et têtu. « C'est bien sûr qu'il faut rester ensemble tant qu'on peut. Seulement, quand le père ne gagne presque rien, quand on a une mère malade, un frère innocent et un autre qui ne bat pas le coup, on ne peut pas, voilà tout. Et il faut bien savoir prendre son parti des choses. » Chapitre 3. Un printemps, au commencement d'une année sur laquelle on comptait beaucoup, un malheur inattendu vint frapper la famille. En faisant sauter un fragment de roche, Jacques fut atteint par des éclats de pierre. On le rapporta sur une civière par les traverses de la montagne. De temps en temps, les porteurs trébuchaient contre un gros caillou enfoncé dans le sentier par les pluies, ou bien, n'en pouvant plus, posaient leur charge sur le bord du chemin. Et le blessé, malgré les secousses, malgré ses souffrances, ne bronchait pas. La grande Jeanne était en train d'étendre du linge sur les palissades du jardin quand le cortège arriva devant la maison. Elle ne poussa pas une plainte, mais elle devint toute pâle et leva ses bras vers le ciel, comme pour demander grâce au bon Dieu. Tous les autres se mirent à pleurer, sauf le père André, qui regardait d'un air morne son fils étendu sur la civière, blanc comme le linge qui séchait, avec ses grands yeux doux où s'allumait la fièvre. Il aida à le porter sur son lit, versa à boire aux hommes, puis dès qu'ils furent partis, rentra dans sa grange et se remit désespérément à façonner ses sabots. Jacques avait le bras droit fracassé et peut-être quelque chose d'autre de gâté dans le coffre. On ne savait tout, car les médecins, avec toute leur science, ne peuvent pourtant pas voir l'intérieur du corps. Et tous les jours, le cabriolet du docteur Durier, tiré par la jument jaune, débouchait lentement au haut de la montée. Quand le vieux praticien crut l'amputation nécessaire, il demanda une consultation pour soulager sa responsabilité. On dut mander un médecin de Nyon, qui, ayant en ce moment beaucoup de malades étrangers à soigner, mena l'affaire rondement. L'amputation fut décidée. Jacques refusa de se laisser endormir, mais, affaibli par la souffrance, il s'évanouit pendant l'opération et ne vit pas son bras tomber. Sa mère tenait les linges, la figure immobile, livide. Léonie pleurait dans son fauteuil. On entendait le rire bestial d'Albert, le bedan, qui s'amusait dans la chambre à côté, avec un nid de pie rapporté par Ami. L'opération d'ailleurs réussit à souhait. Au bout de peu de temps, le docteur Durier autorisa le malade à se lever et la convalescence fut rapide. Alors, Jacques recommença sa vie forcément désœuvrée d'autrefois, n'ayant plus même la ressource de donner des coups de main au gros Frédéric. Il restait ainsi des heures et des heures sous le poirier, sa main unique posée sur ses genoux, à regarder la route déserte où passait, à de longs intervalles, une voiture de roulage, un char de bois, des paysans allant à l'ouvrage, leurs outils sur l'épaule. Les travailleurs lui criaient un bonjour, il les suivait des yeux, et en les voyant disparaître au prochain contour, il jetait dans la campagne déserte qui l'enveloppait un regard d'inutile révolte. Quelquefois, un ancien camarade s'arrêtait un moment avec lui, et pour le distraire, lui parlait de la récolte, des on-dit du village, de ce qu'il y avait sur le journal. Monsieur l'Oranger, qui passait devant la scie en allant chasser des oiseaux pour sa collection d'histoires naturelles, ne manquait jamais non plus de lui adresser quelques bonnes paroles. De temps en temps, le pasteur venait s'asseoir à côté de lui sur le banc pendant des demi-heures. Et dans le premier mois de sa convalescence, le syndic lui envoya 6 bouteilles de vieux vin de la côte, d'une belle couleur d'ambre, qui aurait fait revenir un mort. Tout le monde avait pitié de lui. De se voir ainsi plein, il souffrait davantage. Il avait fallu payer le docteur Durier et le médecin de Nyon, et les remèdes rapportés de la pharmacie, et des beefsteaks pour refaire du sang aux blessés. Aussi ne restait-il rien des économies de la grande Jeanne, de ce peu d'argent butiné sur le nécessaire, ramassé par les suées tombées dans la poussière du chemin, sur le sol maigre du jardin, sur les mousses de la forêt, de ces quelques pièces jaunes jalousement cachées dans un vieux bas. La vieille femme se sentait les bras cassés par ce coup inattendu. Sans doute, Jacques ne gagnait pas grand-chose, mais le peu d'argent qu'il gagnait, c'était toujours ça, et ça ne viendrait plus. Et puis, ça vous ôtait le courage de le voir traîner ses pas lents autour de la maison, avec un air morne et son moignon de bras qui pendait. Sans compter qu'on devait lui remonter le moral tout le temps. Il s'aigrissait, se gonflait comme une soupe au lait à la moindre piqûre de mouche, voyait partout de mauvaises intentions. Si par malheur le père André faisait une allusion à la dureté des temps, sans penser à mal, au moment de se mettre à table, Jacques s'en allait en criant comme un furieux « Quand on ne travaille pas, il ne faut pas manger, hein? C'est bien ce que tu veux dire ?» Le père André haussait les épaules « Mais non, mais non !» Mais Jacques ne voulait rien entendre. Il fallait que sa mère le poursuivît, un pot de soupe à la main, en répétant « On sait bien que ce n'est pas de ta faute, va !» Et c'était elle encore qui l'apaisait quand, après avoir lu le courrier de la côte, il se mettait à fulminer contre les riches et développait des théories à faire trembler la forêt. À côté de tous ces tracas, la pauvre femme passait de bien mauvais moments quand il fallait payer les intérêts de l'hypothèque, ou seulement l'impôt. Et une idée la tourmentait, qu'elle confiait quelquefois au gros Frédéric, en partant pour Nyon, sa hotte sur l'épaule. « Voyez-vous, Frédéric, ce qui m'inquiète, c'est qu'un malheur n'arrive jamais seul. » Le vieux Ballois hochait sa tête qu'on eût dite taillée dans du bois, de sorte que sa pipe noire battait lentement la mesure. Elle reprenait. « Et puis, c'est la famille qui me tourne le sang. Ce chenapan d'amis, lui qui pourrait nous aider, il court les routes toute la sainte journée sans vouloir rien faire. Ah, vous êtes heureux, vous. Vos affaires marchent et vous n'avez personne. » Alors le sieur se mettait à parler, sans ôter sa pipe de sa bouche, avec son terrible accent de là-bas. « Oui, mère André, les affaires marchent, bien sûr, et je n'ai personne, bien sûr. Mais, bien sûr, ça n'est pas toujours gai de n'avoir personne. On peut s'ennuyer. » Il disait « ennuyer », en aspirant la première syllabe et en traînant sur la seconde, de sorte que le mot avait un accent étrange, singulièrement expressif, comme si les longues heures du vieux solitaire y eussent pleuré leurs monotonies accumulées. Alors la grande Jeanne, que cette « ennuyée » troublait, concluait « C'est égal, la vie n'est rose pour personne. » Et elle se remettait en route d'un pas égal. Le gros Frédéric, qu'il avait connu jeune, à Corte, avec des cheveux blonds, des joues roses, de jolis bras blancs qu'elle montrait en étendant son linge, la regardait s'en aller, toute grise, ridée comme une pomme flétrie, courbée à présent, comme si sa hotte eût pesé des quintaux. Une idée germait avec lenteur dans son cerveau de germain transplanté en pays welsh, engourdi par le bruit de l'eau qui coule et de la scie qui avance en grinçant à travers le bois. Il y avait là, à côté de lui, de braves gens, vaillants à l'ouvrage, qui, avec toute leur peine, ne parvenaient pas à nouer les deux bouts. Ces gens avaient un fils en âge de gagner son pain, solide, bien bâti, dont ils ne savaient que faire, et qui se déroutait faute d'occupation. Or, la scie marchait assez bien pour qu'un ouvrier n'y perdît pas sa journée. Un scrupule le retenait encore, le vieil égoïste. Il craignait de voir ses habitudes de solitaire bouleversées par ce gamin, qui trotterait tout le jour sur ses talons, tournerait autour de lui comme une toupie, lui demanderait un tas de choses qu'il faudrait, tant bien que mal, lui expliquer. Et pourtant, la mère André ne pouvait plus suffire à sa tâche. C'était clair. Les bons sentiments finirent par l'emporter. Un jour, il arrêta la grande Jeanne, comme elle partait pour Nyon, avec un air tout solennel. « Écoutez, mère André, je voudrais vous parler. » Il paraissait si embarrassé, ayant par extraordinaire ôté la pipe rivée à ses lèvres, que la vieille femme fut très intriguée. « Eh bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, Frédéric ?» Alors il expliqua son affaire, en petites phrases embarrassées. « Voilà, mère André, j'ai eu une idée. Ça vous va, bien sûr. Je prendrai votre ami pour m'aider. Il sera nourri. Il aura 5 francs par semaine. Pour commencer, bien sûr. Qu'en dites-vous ?» Ce jour-là, le chemin parut court à la grande Jeanne. Des rêves passaient dans sa tête, et toute joyeuse, elle allait, construisant ses châteaux en Espagne, qui montaient dans la mélancolie du ciel d'automne, où moutonnaient des nuages pâles. Le vieux Ballois n'avait pas de famille, rien que des parents éloignés, là-bas, dans son pays. Dieu sait tout, qui sans doute ne pensait plus guère à lui. Peut-être se prendrait-il d'amitié pour le petit, qui, avec tous ses défauts, était gentil quand il voulait. Il l'intéresserait à ses affaires, il lui en laisserait la suite lorsqu'il s'en irait ou quand ses rhumatismes le clouraient trop souvent au fond du lit. Or, la scie n'est pas mal située, au pied du bois, à 2 lieues à peine de Nyon. Si jusqu'à présent elle n'a pas fait grand-chose, c'est bien la faute à Frédéric, qui même en ses meilleurs temps n'a jamais voulu plus d'un ouvrier, et s'en est obstinément tenu au petit train-train habituel. Une idée comme ça, chevillée dans sa tête dure d'allemand, comme un clou dans du vieux chêne. Mais, dirigée avec intelligence par un homme actif et entreprenant, la scie pourrait prendre de l'extension. On y verrait alors accourir les plus gros marchands de bois des environs, et les autres scies de la contrée n'auraient qu'à se bien tenir. La grande Jeanne était si préoccupée de ses rêveries qu'elle se dépêcha trop dans ses commissions, tellement qu'elle en oublia de la laine à tricoter dont la syndic lui avait pourtant donné un échantillon. C'est à peine si elle avait accepté un verre de vin, tant il lui tardait de rentrer avec la bonne nouvelle. En refaisant la route d'un pas allègre, malgré son fardeau, elle reprit le cours de ses pensées. Pour sûr, Ami deviendrait sérieux devant une si belle affaire. Il comprendrait qu'il était soutien de famille, qu'il devait nourrir son père infirme, sa mère malade, son innocent deux frères. Et quand il gagnerait gros, elle aussi, la grand-mère, qui depuis tant d'années trimait pour tout le monde, pourrait poser sa hotte, étirer ses vieilles jambes au coin du feu et achever de vieillir au milieu des siens, heureux comme des coqs en pâte après tant de traverses. Le temps s'était éclairci. Le soleil venait de disparaître derrière la montagne que couronnaient encore des teintes d'arc-en-ciel quand la messagère aperçut le faîte du vieux poirier qui commençait à jaunir. Mais comme elle approchait de la maison, elle entendit des cris aigus qu'elle connaissait bien. Les gamins du village avaient encore turlupiné le bedon qui se roulait sur le sol en battant la terre de ses pieds. C'était ce chenapant d'amis qui les avait amenés, et son père, l'ayant poussé dans un coin, le rossait à grands coups de sa main unique, si fort que le dos du garnement sonnait comme un tambour. « Laisse-le !» dit la grande Jeanne en accourant tout essoufflée. « Il faut lui pardonner aujourd'hui pour qu'il soit sage. » Elle releva Albert, et comme il continuait à crier, lui flanqua quelques taloches. « Tais-toi donc ! On ne t'a pas écorché, peut-être ?» Puis elle raconta toute l'histoire. Justement, le repas était meilleur que d'habitude. On avait mis au riz la vieille poule noire qui ne pondait plus et qu'on n'aurait guère pu vendre. Ami eut le meilleur morceau. Il fallait lui donner des forces au gaillard, à présent qu'il allait gagner sa vie. Et tout le monde parlait de sa fortune comme d'une chose faite. Jacques lui-même se dérida. « Il faudra qu'Ami renouvelle l'outillage, » dit-il. « On a inventé des machines qui marchent bien mieux que celles au gros Frédéric. » Mais la grande Jeanne fronça les sourcils. « c'est bon, on parlera de ça plus tard. Qu'il gagne de l'argent d'abord avec les outils qui sont là. » Quant au père André, il rêvait tout haut. « Ami deviendra un gros industriel. » Il sera syndic. Peut-être même qu'on l'enverra au grand conseil. Pourquoi pas? Il est aussi malin qu'un autre. En attendant, Ami redemandait de la poule, quoiqu'il fût tout rouge à force de manger. Il se rengorgeait, tout en gardant son air renfrogné à cause de la correction reçue. Et de temps en temps, il se frottait les côtes, en jetant à son père un regard rancuneux. Chapitre 4. Le malheur, c'est qu'Ami n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Le matin, sa grand-mère le tirait par les pieds pour le faire sortir du lit. Le soir, il se plaignait comme s'il eût scié, à lui seul et en long, tous les arbres de la forêt. Alors sa mère, qui le gâtait dès l'enfance, le plaignait avec des mots tendres, ce qui mettait Jacques en colère. Impossible d'ailleurs de savoir si le gros Frédéric était content ou non. Jacques tournait autour de lui, la mine inquiète, avec des airs de point d'interrogation, faisant des discours en gesticulant de son bras unique, sans que le Ballois sortît de sa taciturnité habituelle. Quand le nom d'Ami arrivait dans la conversation, il tournait sur ses talons et disparaissait entre ses tas d'écorce humide. Seulement, deux ou trois fois, la grande Jeanne le surprit à jeter au jeune homme un regard qui n'annonçait rien de bon. Aussi n'osait-elle plus escompter l'avenir. Et quand Léonie lui disait, de sa voix de femme malade, « Quand Ami sera riche », elle ne répondait plus rien. Un samedi soir, Ami rentra tard, en racontant que Frédéric l'avait envoyé en commission jusqu'à Trélex. Quand on lui demanda l'argent de sa semaine, que jusqu'alors il avait donné régulièrement, il mit la main dans sa poche d'un air embarrassé, devint rouge jusqu'aux oreilles, et finit par extraire une pièce de 40 sous en balbutiant qu'en route il avait perdu le reste. « Tu mens !» lui cria la grand-mère. Et Jacques marcha sur lui, pâle de colère, en répétant les dents serrées. « Qu'as-tu fait de cet argent ? Dis, qu'en as-tu fait ?» En se voyant menacé, le garnement retrouva toute son assurance. Il recula et répondit « Eh bien, cet argent, il est à moi. C'est moi qui le gagne. » Cette idée ne lui serait jamais venue toute seule. Sans doute, c'était les mauvais sujets qu'il fréquentait qui la lui avait fourrée dans la tête. Seulement, Jacques s'arrêta net en regardant la grande Jeanne, qui regardait le père André. « C'est juste, tout de même, ce qu'il dit là !» fit le vieux sabotier après avoir réfléchi un moment. « Il ne nous coûte plus rien. S'il veut abandonner ses parents, c'est son droit. » Et tous se taisaient, tandis que leur château en Espagne s'écroulait les uns sur les autres. « Voilà comment va le monde !» fit à la fin la grande Jeanne. « On ne peut plus compter sur rien, pas même sur ses enfants. » Ami s'était éloigné et sifflait, les mains dans ses poches, d'un air indifférent. À partir de ce jour, Ami disparut chaque fois que le scieur le payait. Il se glissait dans le fossé qui borde la route pour aller au village sans passer devant sa maison, risquant la piqûre des vipères plutôt que de renoncer à ses plaisirs. Il se dirigeait droit vers le cabaret, passait fièrement sous la branche de sapin qui ballottait au vent, tapait sur la table avec son poing pour appeler l'aubergiste, invitait des camarades et fumait, comme un homme, des grands onds qu'il coupait en deux. On ne le revoyait que le lundi soir, sans qu'on sût où il avait couché. Et personne ne lui parlait plus. Si encore il s'était contenté de « jeter son argent par les fenêtres », comme disait le père André. Mais voilà qu'il attirait des désagréments à sa famille. Un jour, le père Plantin, qui tenait le magasin vis-à-vis de la cure, vint raconter qu'Ami courait après sa fille Rose, une galopine, pas même essuyée derrière les oreilles. Et il dit que c'était honteux, que des parents devaient surveiller leurs enfants mieux que ça, qu'ils casseraient les reins au garnement s'ils venaient encore se planter devant sa boutique tout l'après-midi du dimanche. Mais Ami se moquait pas mal du père Plantin. Il avait des jambes qu'il savait prendre à son cou à l'occasion, malgré sa paresse, et comme pour narguer le bonhomme, il passait et repassait devant la boutique, tandis que Rose, toute sémillante parmi les objets disparates qu'elle vendait, baissait hypocritement les yeux en feignant de ne pas le voir. Elle le voyait bien, la coquine. Même il lui plaisait, avec son air hardi et les poils follets de sa moustache qui commençaient à pousser, tellement que M. Loranger les surprit un jour à s'embrasser derrière l'école et leur fit une verte semonce. Il y eut aussi des difficultés avec le garde champêtre, qui avait pris Ami en flagrant délit de maraudage dans un verger. Seule l'intervention de M. Loranger lui évita une mauvaise affaire. Jacques ne battit pas son fils, les coups ne servaient de rien. Il se contenta de lui dire « Voilà que tu deviens voleur à présent. Tu finiras mal, tu verras. » Chaque fois qu'Ami mettait ainsi la maison sans dessus-dessous, la petite Jeanne, de son air raisonnable, reprenait son refrain. « Tu vois bien, grand-mère, qu'il faut que je m'en aille en place. Autrement, vous ne vous tirerez jamais d'affaire, ici. La mer va de mal en pis. Personne ne t'aide. Il faut bien. » La grande Jeanne ne disait plus non. Elle se faisait vieille tout de bon cette fois. Ses mèches grises devenaient blanches sur son dos qui s'arrondissait de plus en plus. Pour aller à Nyon, elle était obligée de s'asseoir bien souvent sur les bornes de la grande route, et la course lui prenait 3/4 d'heure de plus qu'autrefois. Sa vue aussi baissait. Le pharmacien ne voulait plus de ses champignons, parce qu'en se trompant à 2 reprises, elle lui avait attiré des désagréments. Il fallait bien se résigner. Et à l'automne, la petite Jeanne entra, comme bonne d'enfant, à 15 francs par mois, dans une famille de Genève. Chapitre 5. Alors, la maison fut désolée, avec les 2 malades et le bedan. Le père André, au fond, n'avait jamais aimé que sa petite fille, qui seule savait l'égayer. Séparé d'elle à présent, il marronnait tout le jour dans sa grange, en massacrant son ouvrage. Léonie s'affaiblissait, étendue sur son lit qu'elle ne quittait presque plus. Jacques, amaigri par l'ennui, rôdait dans les prés, son bras ballant, ou regardait longuement des grenouilles, effrayées par sa venue, sautait dans l'eau noire de l'étang qui servait d'écluse à la scie. Il ne recherchait plus aucune compagnie. Quand, assis sous le poirier, il voyait déboucher au tournant de la route des camarades qui se seraient arrêtés avec lui, il s'empressait de rentrer. De temps en temps, Monsieur l'Oranger disait à la grande Jeanne « Vous devriez essayer de distraire votre fils, mère André. Il s'ennuie trop. Il finira par prendre une maladie noire. » La pauvre femme levait les bras au ciel. « Il ne manquerait plus que ça. Mais mon bon monsieur, que voulez-vous que j'y fasse ?» Et pas une fois, Amine ne leur aurait donné la moitié de l'argent qu'il dépensait au cabaret. Un jour, le gros Frédéric arrêta la grande Jeanne. « Mère André, j'ai quelque chose à vous dire. » La vieille eut un tressaillement. Le Ballois semblait mal à l'aise. Sans doute il allait se plaindre d'amis, le renvoyer peut-être. Et cette incertitude se prolongea. Le sieur considérait sa pipe, qu'il avait ôtée de sa bouche, et tenait d'un air gêné entre le pouce et l'index. À la fin, il s'expliqua. « Mère André, je suis content de votre ami, bien sûr. Il travaille dur. Il fait autant d'ouvrage qu'un ouvrier. » On voyait que ces choses, qui n'étaient pas vraies, lui coûtaient à dire. « Je lui donnais 5 francs par semaine. Ce n'est pas assez, bien sûr. Je lui en donnerai 10. Seulement, il dépense son argent. Et vous avez de la peine, bien sûr. Alors, je vous remettrai le surplus à vous-même, n'est-ce pas ?» C'était une aumône. Le vieux Ballois ne pouvait se résigner à l'embarras de ces braves gens. Les seuls qu'il vit régulièrement depuis des années, les seuls pour lesquels il eut quelque chose comme un semblant d'amitié. Ça lui faisait mal de rencontrer toujours sur son chemin leurs visages soucieux. Et il leur venait en aide, lui qui gagnait de l'argent plus qu'il ne lui en fallait. C'est toujours ainsi, on compte sur ses enfants pour quand on sera vieux, et dès qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes, les enfants s'en vont leur chemin, oublieux de vos dévouements, ingrats, vous laissant accepter le pain que vous tendent des étrangers charitables. La grande Jeanne avait les larmes aux yeux en remerciant son voisin, mais c'était des larmes de honte, des larmes qui lui brûlaient le visage. La générosité du gros Frédéric diminua pour un temps les soucis des André. D'autant plus que chaque mois, la petite Jeanne envoyait dans une lettre pour 6 ou 8 francs de timbre-poste, que Jacques allait revendre au bureau du village. C'était Léonie qui, de sa voix dolente, lisait la lettre. La petite Jeanne y racontait toutes ses affaires, bien en détail. Madame lui avait donné une robe ou un tablier. Le petit, qu'il fallait toujours porter, devenait lourd, griffé comme un chat, pleurait souvent par méchanceté sans avoir mal. Elle avait eu des raisons avec la femme de chambre qui ne la trouvait pas assez demoiselle. Elle regrettait toujours le pays. Cela, par exemple, on le voyait bien par ses lettres. Oui, on voyait que là-bas, dans cette ville où il y a des boulevards larges comme deux fois la route, des boutiques où l'on vend de tout, des voitures à deux chevaux, des toilettes superbes dans les rues, malgré tant de distractions, elle n'oubliait aucun des siens, ni la maison. « C'est une brave fille, celle-là, » faisait le père André avec un sourire épanoui. « Je l'ai toujours dit, c'est une brave fille. » Jacques, le visage un peu éclairci, ajoutait, avec un geste de son bras unique, « Heureusement que nous l'avons, sans quoi ce serait à douter du bon Dieu. » Mais il redevenait sombre quand Albert, le bedan, trop grand pour son âge, se mettait à tourner autour de lui en suçant son pouce comme un bébé, quoiqu'une forte barbe encadrât déjà son visage marqué de taches rouges, et il lui criait brutalement « Laisse ton pouce, animal ! N'as-tu pas honte, dis ?» Chapitre 6. Un jour, la petite Jeanne écrivit qu'il lui fallait une robe, que pour cette fois elle avait besoin de tout son argent, et n'envoya pas de timbre-poste. Léonie lut la lettre vide, au milieu d'un silence consterné. « Nous comptions là-dessus pour payer le fournier, » fit la grand-mère. « Il faudra voir à nous retourner autrement. » Le père André voulut excuser la petite, puisqu'il lui fallait une robe, n'est-ce pas ? Mais Jacques, qui voyait toujours le mal partout, murmura en haussant les épaules « Je vous dis qu'elle fera comme l'autre, et finira par ne pas plus s'occuper de nous que de vieux chiens galeux. Il faut s'y attendre, les enfants sont tous les mêmes. Pourquoi vaudrait-elle mieux que les autres, celle-là ? » Le mois suivant, la lettre de Genève fut en retard de 3 jours et arriva encore vide. La petite Jeanne avait dû commander un chapeau pour aller avec sa robe. Le père André baissait les yeux, plus gêné que s'il était lui-même en faute. Jacques ricana. « Que vous disais-je ? Hein ? Cette fois c'est un chapeau. Et puis après, que lui faudra-t-il ? Des rubans ? Des fichus ? Dieu sait quoi ? Tout ce qu'une femme peut se mettre sur le dos. Pendant qu'ici, nous avons à peine à manger. » Le mois d'après, quand la lettre arriva avec un nouveau retard, tous se regardèrent un moment avant de l'ouvrir. Jacques, à qui le facteur l'avait remise, la soupesait dans la main. « Ouvre-la » dit-il à sa femme. « Je parie qu'il n'y a rien. » Jacques avait raison, comme toujours, et la petite Jeanne ne se donnait même plus la peine d'expliquer pourquoi elle gardait son argent. Le père André avait l'œil humide, non pas tant à cause de l'argent, mais parce qu'il lui semblait que la petite n'était plus la même. Dans sa lettre, il n'y avait plus de ces mots affectueux qu'elle savait trouver et qui réchauffaient le cœur du grand-père. Puis elle parlait à peine d'elle et disait seulement qu'elle avait changé de place en indiquant une nouvelle adresse. Et le papier sentait bon, comme du savon fin. Ce parfum révolta la grande Jeanne, qui s'écria « Si elle allait mal tourner là-bas ! Bon Dieu, qu'est-ce que nous avons donc fait ?» Jacques, au lieu de la consoler, lui disait, la voix sourde « La ville ne vaut rien pour les paysans comme nous. Elle nous prend tout ce que nous avons, jusqu'à nos filles qui nous oublient. » Monsieur Parent, le riche propriétaire, s'intéressait à la petite Jeanne, parce qu'il l'avait vue naître. Souvent, en allant à la chasse, il s'arrêtait sous le grand poirier pour s'informer d'elle, et quand le père André lui racontait comme elle était brave, il approuvait avec satisfaction. Lorsqu'il sut ce qui se passait, il abonda dans le sens du père. « Non, la ville ne vaut rien pour les campagnards. Les campagnards devraient garder chez eux leurs filles, qui trouve toujours du travail au village. Il faut demeurer où l'on est né, comme les arbres de la forêt. Mais les hommes sont tous les mêmes, ils ne pensent qu'à s'élever, au lieu d'accepter le sort que la Providence leur a donné. Avec tout ça, la terre manque de bras pour la cultiver. Et il n'y a pourtant pas de plus noble métier que celui de laboureur, depuis que Dieu a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Toutes ces belles paroles finirent par exaspérer le père André, qui se mit à crier « Oui, c'est entendu, vous avez raison. Autant rester où l'on est né. On y est aussi bien qu'ailleurs pour crever de faim dans ces vieux jours. » Et Monsieur Parent, prévoyant qu'on lui demanderait tôt ou tard des secours, évita dès lors de s'arrêter sous le grand poirier. Chapitre 7. Malgré tant de revers, les André se tenaient encore debout. Il y a comme ça dans la forêt des arbres à moitié morts qui résistent au vent à force qu'ils sont serrés les uns contre les autres. Pourtant, à la fin, un dernier coup vint les abattre. Le départ d'Ami. Le gardement était allé faire son service militaire à Lausanne, où il s'amusa comme un pandour. En caserne, il se lia avec des jeunes gens de la ville, qui avaient de l'argent plein leurs poches, et lui disaient qu'ils en gagnaient tant qu'ils en voulaient, sans s'éreinter pour ça, et en rigolant de la belle manière. Il semblait avoir fait tous les métiers, et affirmait pourtant n'être d'aucun. « Quand on est malin, disait-il, on se retourne toujours, et sans apprentissage. » Et il payait des litres de vin et des chopes de bière dans des estaminets où servent de belles filles. Aussi, les 7 semaines de son service militaire, malgré les « un, deux », les marches forcées et la salle de police, ne laissèrent-elles à Ami que de charmants souvenirs. Et à son retour, en suivant le gros Frédéric à travers les billons et l'état d'écorce, il demeurait troublé par les visions de l'existence entrevue, en sorte qu'il finit par se trouver au village comme un pommier dans un bois de sapin. Travailler comme un nègre, 6 jours par semaine, avec ce balois qui n'ouvrait jamais la bouche, être méprisé par les siens qui méconnaissaient son mérite et lui faisaient des mines longues d'une aune, n'avoir d'autre plaisir que de pinter le dimanche dans une auberge où les gros bonnets de l'endroit vous regardent de travers, est-ce une vie? Et l'idée du départ le hanta. Il eut d'abord l'intention de disparaître sans rien dire à personne pour éviter les discussions. Mais quelque chose qui subsistait en lui l'en empêcha, et il fit part de ses projets à ses parents un soir qu'on était réunis à la cuisine, sans autre lumière que les branches sèches qui flambaient dans la cheminée. Il expliqua la chose, les yeux baissés, aussi vite qu'il put, pour avoir fini plus tôt. Les 2 vieux ne dirent pas un mot. Seulement, la grande Jeanne baissa la tête, comme si on lui assénait un coup de massue. Léonie se mit à pleurer doucement, en femme, habituée à souffrir sans jamais faire de bruit avec sa douleur. Jacques seul se fâcha. « Je sais bien pourquoi tu veux t'en aller, moi » cria-t-il. « Tu ne peux pas faire ici tes 119 coups. On te gêne. Tu as peur de nous. Va-t'en, puisque tu veux partir. Va-t'en où tu voudras, qu'on n'entende plus parler de toi. Au moins, tu seras guillotiné ailleurs. Car tu finiras mal, c'est moi qui te le dis. » Entre des sanglots, Léonie murmurait « Oh, Jacques, ne dis pas ça, ne dis pas ça. » Et il lui semblait déjà voir son favori, son Benjamin, qui était si joli quand il était petit et qu'elle avait tant choyé avant d'être malade, passer devant la maison entre 2 gendarmes, avec des menottes, comme les coquins qu'on arrête à la frontière. Peu de jours après, Ami partait, ses hardes empaquées au bout d'un bâton, emportant un pain bis, un saucisson et 15 francs en monnaie, dans la bourse de cuir que son grand-père lui avait donnée. Quoique ce fût une imprudence, Léonie voulut absolument se lever pour le conduire quelques pas sur le chemin. « Qui sait si je le reverrai ? disait-elle. Les deux vieux l'accompagnaient, le père André lui donnant le bras. Jacques, après avoir souhaité bonne chance à son fils, d'un air froid, était rentré tout de suite à la maison. La première neige tombait. Comme aucun vent ne secouait les arbres, leurs branches dépouillées semblaient enchâssées dans des gaines blanches. Les prés étaient blancs aussi, et les haies, et le chemin. Et toute cette blancheur, qui s'épaississait, dégageait une profonde tristesse. Ils avançaient silencieusement tous les quatre. Quoiqu'ils fussent chaussés de gros sabots, la couche de neige leur faisait déjà un tapis si moelleux qu'ils ne faisaient aucun bruit en marchant. Ils glissaient comme des ombres sous les flocons, et la mélancolie du silence, du froid, de l'hiver, les glaçait peu à peu jusqu'à l'âme. Léonie frissonna. En ce moment, elle oubliait tous les torts de son fils et l'aimait de son plus grand amour. La grande Jeanne et le père André pardonnaient comme elle et sentaient bien que ce départ, c'était un morceau de leur chair qui s'arrachait. Vaguement, sans rien dire, ils songeaient à des choses très lointaines. Au bas de la montée, ils s'arrêtèrent sous un grand sapin. « Il ne faut pas que ta mère aille plus loin, » dit la grande Jeanne. Léonie voulut protester. « Si, si, je ne suis pas fatiguée, je me sens très bien. » Mais le père André dit à son tour, « Non, ce serait imprudent. Avec quoi te soignerions-nous si tu devenais plus malade ?» Et ils embrassèrent Ami, qui, malgré son égoïsme, se sentait le cœur tout gros. Puis ils restèrent un moment sous le sapin, le suivant des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu à un contour, après s'être retourné deux fois. Quand ils repassèrent devant la scie, ils aperçurent le gros Frédéric, qui traînait ses jambes raidies par les douleurs, l'échine courbée, seul de nouveau. Puis, en arrivant à la maison, Léonie, prise tout à coup pour Albert d'un grand accès de tendresse, voulut l'embrasser. Mais le bedan, que personne ne caressait jamais, se mit à crier comme si on lui faisait du mal. Chapitre 8. Au printemps, les André n'avaient pas un sou pour payer les intérêts de leur hypothèque. Même, ils devaient encore les remèdes de Léonie au pharmacien, qui réclamait son argent toutes les semaines. Et le fournier ne voulait plus cuire leur pain avant que tout l'arriéré fût soldé. Ils se résignèrent donc à vendre au gros Frédéric le lopin de terre qui borde l'étang, dont il avait toujours eu envie pour être tout à fait chez lui. C'était, comme disait Jacques, le commencement de la fin, le premier sacrifice fait à la misère qui prendrait ensuite le reste, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus rien. Le père André faillit pleurer en signant l'acte chez le notaire, et ce fut la grande Jeanne qui dut le consoler. C'est elle aussi qui trouve moyen de gagner encore un peu d'argent. Elle continue à faire les courses à Nyon. Seulement, comme elle ne peut plus porter sa hotte pleine, il faut que Jacques l'accompagne, un panier à son unique bras. Tout le monde la plaint. On n'appelle plus la maison des André que « l'hôpital à la grande Jeanne ». On cherche à lui donner du courage, et les bonnes gens, quand ils lui parlent de ses malheurs, lui disent pour la consoler « Que voulez-vous, mère André, il faut se résigner quand on ne peut pas faire autrement ». Et elle se résigne, en redressant de son mieux sa taille cassée, trouvant encore, de temps en temps, quelques bonnes paroles pour Jacques, qui se plonge toujours plus dans ses idées noires, pour Léonie qui ne se lève plus et dépérit dans son lit, pour son vieux mari dont les yeux sont presque morts. Et, tout en allant de l'un à l'autre, elle pense que le toit se gâte sans qu'on puisse le réparer, ou que, comme on est forcé de vendre les cabris à mesure qu'il en vient, la chèvre ne sera pas remplacée quand elle sera trop vieille.